Les images resteront certainement gravées dans nos mémoires au lendemain de l'incendie qui a partiellement ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'émotion et la sidération sont uniquement partagées. La presse en est largement témoin ce matin. Quelques unes aujourd'hui en France, Notre-Dame des larmes, Libération, notre drame, ou encore le Figaro, Notre-Dame de Paris, le désastre. Ce matin, l'ancien évêque de Tarbes et Lourdes, et également ancien évêque de Chartres, Monseigneur Perrier, qui fut aussi curé de Notre-Dame de Paris, disait à Mathias Terrier toute son émotion. On l'écoute.
Mais écoutez, vous avez rappelé que j'ai été évêque de Chartres. Or, je crois qu'on l'a peu dit sur les médias, il est arrivé la même chose à la cathédrale de Chartres au XIXe siècle. Exactement pour les mêmes causes. Lors de travaux, et la charpente qui devait être la charpente précédente, qui devait être en bois pareil comme à Paris, a brûlé, et le toit s'est effondré. Et c'est pour ça que la cathédrale de Chartres aujourd'hui a cette toiture verte, parce que quand on a refait la toiture, on l'a refaite en cuivre. Et donc, je veux dire que l'épreuve qui arrive à Notre-Dame de Paris, c'est une épreuve que la cathédrale de Chartres a connue deux siècles avant. Et ben vous voyez comme la cathédrale de Chartres aujourd'hui est belle et attire le monde entier aussi à sa façon. Hein. Bon, et donc moi j'ai bon espoir. Et puis une chose qui est très touchante quand même, c'est la solidarité des Français. Je crois, je pense que là le chef de l'État s'est bien exprimé hier. Et vous voyez, même le journal Libération, qui n'est pas un journal hyper catholique, bon, a trouvé un titre que je trouve très beau, et en disant Notre drame de Paris. Je trouve que tout ça est assez beau, est assez finalement réconfortant. Il y a une belle unanimité, une belle solidarité, je crois, devant cet événement. Et puis, à la fois comme le monument, évidemment, sera reconstruit, hein, bien sûr, d'autant plus qu'il est peut-être moins gravement atteint qu'on ne l'a pu le craindre à un moment. Bon. Et puis, je pense qu'il y a un réflexe à la fois humain, national, international, même, etc., qui est beau et qui est quand même un test. Il y a quand même des choses universelles, si vous voulez, on en a besoin. Bon. Et puis, je pense que pour les chrétiens, pour les catholiques, c'est une épreuve. Mais on peut aussi se dire... L'Église, hélas, pour de justes raisons, était tellement décriée dans ces derniers mois, de voir que, mais quand même, quand on touche au sentiment religieux le plus profond, y a un respect, une communion. Enfin, il faut voir les éléments positifs, à mon avis, dans cette tragédie.
Vous qui avez sans doute souvent célébré dans ce lieu, quelle est la force de ce lieu, vous comme prêtre?
Oui. C'était le recteur de ce lieu. Je l'ai été pendant 7 ans. J'y célébrais tous les jours. Je célébrais tous les jours la messe du soir quand le calme revenait. Bon, mais j'y faisais aussi des heures d'accueil le samedi. Donc au contraire, à un moment de très grande circulation. C'est un lieu qui est très difficile parce que on a beaucoup dit sur les médias 13-14 millions, effectivement, c'est à peu près la fréquentation, donc qui est excessive par rapport à la taille du bâtiment. Donc il y a des moments où la foule l'emporte sur le recueillement. Bon, donc c'est difficile. Bon, mais ça reste aussi un lieu non seulement pour des pratiquants électifs, si je veux dire, qui aiment Notre-Dame. Voilà, qu'ils y viennent toutes les semaines ou qu'ils y viennent quand ils viennent à Paris pour un motif professionnel ou autre, s'ils vont à la messe, ils vont venir à Notre-Dame. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens ils entrent dans Notre-Dame plutôt comme touristes, si vous voulez, mais lundi, si vous voulez, ils mettent un cierge, ils s'arrêtent quelques minutes, quelques secondes devant une croix ou une statue de la Vierge, les deux pôles principaux. Et donc, il n'y a pas les fidèles et les touristes. J'ai toujours refusé cette dichotomie. Il y a des gens que Notre-Dame, que la Vierge accueille, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Lourdes, que je sache. Hein. La Vierge est accueillante. Voilà. Donc c'est des belles cathédrales en France. Nous avons de belles cathédrales, j'ai nommé Chartres, mais bon, il y a Amiens. Dans les symboles, il y a Strasbourg aussi, qui est un symbole très fort. Et Reims l'est dans un autre sens. Et Reims, après la guerre de 14, était dans un état bien pire que Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Donc, L'abattement d'hier soir, je pense, doit faire place aujourd'hui à. D'abord, je vous dis, tous ces motifs de réconfort quand même, parce que l'humain l'emportera toujours sur la pierre. Alors, le spirituel a fortiori, mais déjà, l'humain l'emportera. Voilà.
Merci beaucoup, Monseigneur
Mais je
Perrier.
pense, si je me permettais quand même, je voudrais rajouter une petite chose. Hier soir, j'ai beaucoup pensé à deux personnes. Le cardinal Lustiger avait beaucoup, beaucoup œuvré pour la cathédrale, beaucoup. Et je peux penser évidemment au père Jacquin, qui a passé 15-16 ans, qui aimait tellement, 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 tellement la cathédrale, et qui a beaucoup œuvré aussi pour elle. Et donc j'ai beaucoup pensé à eux deux.
Voilà, c'était Monseigneur Perrier, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, qui fut aussi curé de Notre-Dame de Paris. Même émotion perceptible dans les propos de Monseigneur Ginoux. L'évêque de Montauban s'est exprimé ce matin sur cette catastrophe patrimoniale dans le journal de Corinne Saint-Félix. On l'écoute.
Évidemment, Corinne, j'ai une émotion plus grande encore puisque je célébrais mercredi dernier la messe à la mémoire des 25 ans d'essai du professeur Lejeune. J'avais été invité pour ça et j'avoue que c'était la première fois que je célébrais la messe à l'hôtel de la cathédrale de Paris. À voir hier soir ce qui s'est passé, quelque chose de bouleversant. Ces images étaient vraiment très douloureuses et je crois que c'est pas seulement l'église mère, l'église principale de notre pays, qui est une référence pour tous les catholiques, mais aussi pour tous les autres. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, le maire de Paris, tous ces gens qui étaient là l'ont reconnu. C'est une richesse qui dépasse infiniment l'église catholique et qui concerne tous les Français et l'humanité d'une certaine manière. 8 siècles d'histoire qui sont là, des poutres qui ont cet étage-là, et plus encore, donc, puisque le bois venait d'arbres qui auraient 9 siècles, vous imaginez. Donc tout cela, c'est assister à, non pas la destruction totale, mais quand même d'un monument qui est bien plus que un bâtiment historique, qui est le lieu de célébration de messe, d'office, et le lieu de la foi, au sommet de la foi construite par nos très très lointains ancêtres. Et puis, c'est aussi un patrimoine de l'humanité qui part en fumée. C'est une tragédie. Une tragédie pour beaucoup de monde, symbolique, et puis pour nous, fidèles du Christ, chrétiens, au début de la Semaine Sainte. Je note, alors, en tant que catholique, Notre-Dame de Paris a toujours rassemblé la France. Vous voyez, au décès des présidents de la République, lorsque la France est en guerre ou des choses comme ça, enfin, c'est ancien. Mais les gens sont venus à Notre-Dame de Paris, le gouvernement, et lorsqu'on rendait hommage, jusqu'à ces dernières années, à un chef d'État, c'est à Notre-Dame de Paris que ça se faisait. Et là encore, on a vu c'est un bien qui naît d'un mal, une unité de la population, une unité de la France, où beaucoup de gens, comme je le suis, étaient bouleversés. Et c'est donc un signe que Notre-Dame de Paris représente plus que quelque chose pour les catholiques.
Voilà, c'était Monseigneur Ginoux, l'évêque de Montauban. Nous sommes maintenant en direct avec Monseigneur Nicolas Brouvet, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Anne-Rose Jankovic nous a rejoint. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Alors notre première question est toute simple. Quel est votre sentiment au lendemain de ce drame qui n'est pas que parisien, qui est un drame national, on a envie de dire?
Bon, écoutez, évidemment, il y a beaucoup d'émotions hier parce que la cathédrale Notre-Dame-sur-Rue, c'est un symbole très fort. À côté de ça, je me dis, elle est complètement en ruine, elle n'a pas brûlé, les pierres restent, et je suis sûr qu'on va reconstruire. Voilà mes impressions ce matin.
Monseigneur Brouvet, comment expliquer que l'incendie d'une cathédrale bouleverse ainsi tout un pays? On peut parler même de communion hein, depuis hier autour de ce drame. Qu'est-ce que ça dit de notre nation? Quelle est votre analyse là-dessus, Monseigneur Brouvet?
C'est vrai que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est pas n'importe quelle église. On est touché quand une église brûle, quand une église est détruite, évidemment. Mais là, c'est un symbole qui est national. parce que c'est un lieu chargé de foi, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu de culture, c'est un lieu qui est visité, c'est un lieu qui est repéré comme un symbole de la France, avec d'autres, hein. Il n'y a pas que la cathédrale Notre-Dame. C'est vrai que moi j'ai été très très impressionné hier par l'émotion, par la force de l'émotion, à la fois de la part de gens qui sont croyants et pratiquants, à la fois de la part de gens qui se reconnaissent pas dans l'école, dans l'Église catholique, mais qui disent, mais au fond on est aussi atteint par cet incendie, et puis à la fois par les témoignages qu'il y a eu du monde entier. Moi j'ai reçu des témoignages des États-Unis par exemple. Alors c'est un petit peu comme une maison de famille. Une maison de famille qui brûle, même si on n'était pas d'accord avec, même si on n'y a pas de toujours de bons souvenirs, même si on n'est pas d'accord toujours avec les parents ou les grands-parents, on dit c'est quand même notre maison, c'est la maison de tous, et c'est ça qui est très très beau, hein, de découvrir cet attachement presque viscéral des Parisiens, des Français, et même du monde entier à cette cathédrale.
Aujourd'hui, vous passez la journée avec tous les prêtres et tous les diacres du diocèse. Ce soir, il y aura en la cathédrale de Tarbes la messe chrismale qui rassemblera beaucoup de fidèles autour de vous, autour de tous ces prêtres du diocèse. On imagine que, eh bien, il y aura une intention de prière particulière pour Notre-Dame de Paris.
Oui, alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le mardi saint, on a une journée avec les prêtres et on a commencé justement, c'était prévu depuis longtemps, par la visite d'une église qui a été refaite complètement de fond en comble depuis 2014 par les paroissiens eux-mêmes, par les villageois. Ils ont tout refait, seul au plafond. Et ça a été très beau de commencer notre journée par cela, parce que justement, voilà, moi j'ai dit, écoutez, on est en communion avec les Parisiens, avec l'archevêque de Paris, avec tous les fidèles de la cathédrale, et on sait très bien qu'on a les moyens de tout reconstruire. Je dois dire aussi qu'après avoir subi deux inondations au sanctuaire de Lourdes et avoir vu le sanctuaire dévasté, nous savons que nous sommes capables de nous retrousser les manches, qu'il y aura beaucoup de solidarité également financière. Pour refaire, alors évidemment, on fera jamais complètement l'identique. Il y a des choses qui sont perdues à jamais, mais on est capable de ne pas s'arrêter là. Et puis voilà, de se mettre ensemble pour reconstruire.
Monseigneur Brouvet, je vous remercie. Je précise pour nos auditeurs du Piémont pyrénéen, des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques qu'ils vont pouvoir suivre en direct ce soir sur notre antenne, sur Radio Présence à 18h. Donc cette messe chrismale en direct depuis la cathédrale de Tarbes, la cathédrale
Merci. Merci.
Notre-Dame de la Cède. Merci à vous, Monseigneur.
Merci, bonne journée.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Et Argelès-Gazost fait partie du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et donc maintenant, c'est le rendez-vous agenda.
Quelle
Voilà,
belle
habile,
transition.
Oui, habile transition, mais ça,
Bravo.
Nous connaissons Philippe Subercal, c'est
Quel talent.
Un as de la transition. Anne-Rose Jankovic, vous êtes restée en notre compagnie. Avec vous, eh bien, nous allons feuilleter l'agenda du diocèse, bah, comme dans tous les diocèses de France et du monde. L'actualité cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Quelques rendez-vous importants, le Triduum Pascal cette semaine.
Oui, alors avant cela, on l'a évoqué tout à l'heure avec Mgr Brouvet, la messe chrismale ce soir en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Elle a lieu à 18h et pour les personnes qui ne pourront pas s'y rendre, eh bien elle sera diffusée en direct sur Radio Présence. Voilà, donc ça c'est un rendez-vous quand même important qui rassemble beaucoup de fidèles et puis tous les prêtres et tous les diacres du diocèse qui sont présents. Donc c'est un rendez-vous très, très important pour l'église diocésaine.
Alors petite précision, la diffusion a lieu sur le Piémont-Pyrénées, c'est-à-dire non pas sur l'ensemble de notre région d'Occitanie, mais voilà, Haute-Pyrénées,
voilà,
Béarn, Gers et une toute petite partie de la Haute-Garonne. Alors également au menu de cette Semaine Sainte.
Eh bien, le Triduum Pascal, vous l'avez dit, donc on ne va pas ici dans cette chronique énumérer tous les offices et les horaires de tous les offices, mais ils sont tous inscrits, bien entendu, sur le site internet du diocèse de Tarbes et Lourdes, catholique65.fr, et là vous trouverez les offices de jeudi, vendredi, samedi et dimanche dans chaque ensemble paroissial. Voilà.
Voilà, alors l'autre actualité cette semaine pour notre diocèse, eh bien, c'est la sortie le prochain week-end, ce week-end, du nouveau bulletin diocésain. Un bulletin diocésain dont le dossier est consacré ce mois-ci à la musique liturgique.
Voilà, à la place de la musique dans la liturgie, avec plusieurs intervenants, Jean-Paul Léco, Marianne Trizac et Claire Bouchadeil, qui sont tous les trois au service de la liturgie, chacun à leur manière. Donc il y a dans ce dossier un regard croisé pour mieux comprendre eh bien, comment la musique peut servir la prière, la liturgie, et puis répondre à cette question: est-ce qu'il y a un style particulier de musique liturgique?
Alors voilà. On peut préciser que ces trois intervenants, Jean-Pierre Léco, maître de chapelle au sanctuaire, Marianne Trizac est la responsable de la chorale diocésaine, et Claire Bouchadeil, c'est elle qui initie ces rencontres, ces soirées louanges qui ont lieu dans une église de Tarbes, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul.
Voilà, exactement. Donc, ils représentent chacun un style hein, de musique. Donc, voilà, ce dossier est très intéressant parce qu'il répond vraiment à cette question. Est-ce que les trois styles de musique qu'ils représentent servent de la même manière la liturgie? Enfin, voilà, tous les amoureux de la musique et de la liturgie pourront se délecter en lisant ce dossier.
Alors, dossier spécial liturgie, également en page 2, je crois, de ce bulletin diocésain, un grand entretien.
Avec l'abbé Jean-François Duhart, qui est curé de Lourdes, mais qui est également le directeur du pèlerinage diocésain. Alors, vous me direz, le pèlerinage diocésain, c'est seulement au mois d'octobre. Nous avons le temps. Eh bien non, on a du temps, oui, certes, mais il faut y penser dès maintenant, parce que d'ores et déjà, toute une équipe organise et prépare eh bien, ce rendez-vous hein, qui aura lieu du 18 au 21 octobre prochain. Donc là, l'abbé Jean-François Duhart, dans cet entretien, nous dit un petit peu les grands rendez-vous pour que d'ores et déjà, nous puissions réserver sur nos agendas les dates importantes, les grands rendez-vous du pèlerinage. Donc il y aura notamment la messe d'ouverture dès le samedi, la marche diocésaine. Il est fait mention très largement de la marche diocésaine parce que vous savez que dans un pèlerinage eh bien, la marche est très importante, et depuis l'an passé on a renouvelé un peu cette idée de la marche, et donc on propose à tous les diocésains de se retrouver à Saint-Savin et de marcher de Saint-Savin jusqu'à Lourdes pour eh bien, cheminer jusqu'au sanctuaire de Lourdes, et puis ensuite rejoindre tout le reste des chrétiens de Bigorre, en fait, qui seront, eux, déjà à Lourdes, en train de vivre eh bien, chacun leur pèlerinage. Alors, il y a les familles, il y a les hospitaliers, bien évidemment, les personnes malades, enfin voilà. Chaque catégorie de personnes a son programme, et si vous lisez cet entretien, eh bien, vous verrez que d'ores et déjà, vous pourrez programmer un petit peu pour le mois d'octobre.
Voilà, il y a également les techniciens réalisateur de radio, Philippe Siberkas s'est inscrit pour la marche Gavarnie-Maubourguet du Nord.
Alors, voilà, ça dépend dans quel sens. Ça dépend. C'est bien Gavarnie-Maubourguet.
Voilà, on en termine avec, également dans le bulletin diocésain, un ensemble de retours sur des événements qui s'y sont passés ou qui les annoncent. Vous avez souhaité attirer l'attention sur une info concernant le MRJC.
Voilà, je voudrais 90 ans. Les 90 bougies pour le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui nous invite à oser le rural le samedi 4 mai prochain. Donc pour fêter les 90 ans, eh bien, toute l'équipe du MRJC pose ses bagages en plein centre-ville de Tarbes, place de la mairie. Il y aura une ferme en plein centre-ville sur la place de la mairie. Il y aura des tables rondes, des débats. Voilà, il y aura des agriculteurs qui présenteront leurs produits. Enfin, c'est le 4 mai. En plein centre-ville de Tarbes, il faut y être pour célébrer avec nous les 90 ans de ce mouvement qui est très important dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Nous y serons, Anne-Rose. Merci, on compte sur vous la semaine prochaine, mardi, même heure, même antenne. À très bientôt, Anne-Rose.
À bientôt, Luc.
Et à la semaine prochaine.